19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, c'est un plaisir. Durant une heure, nous sommes ensemble. Ensemble pour tout simplement, vous savez quoi? C'est très simple, trois mots que je vous lâche. Commenter, analyser, décrypter. Voilà. Ça, c'est les mots-clés que, évidemment, qu'on vous propose dans les informés. Alors, le menu qui vous attend. Détente, hein, on est vendredi. Hein. En même temps, nous allons vous apporter un peu de sérieux. Les sujets qui ont retenu notre attention. Tiens, Marine Le Pen, qui s'inquiète. Elle tremble. Pourquoi elle tremble? D'abord parce qu'elle a fait grandir, elle a participé à l'éducation de Marion Maréchal. Elle est un peu déçue. Parce qu'aujourd'hui, elle a décidé peut-être de soutenir Éric Zemmour et pas sa tata.
Oh là là.
Peut-être qu'on aura l'appel surprise tout à l'heure. Hein. Vous savez, il y a un nouveau concept qu'on a lancé. Hein. C'est l'appel surprise. À tout moment, il surgit, il jaillit, on ne sait pas d'où, partout dans le monde. Et puis voilà, je décroche. Et c'est à ce moment-là, vraiment, que je sais qui est au bout du fil. Ensuite, second sujet, François Hollande. Le retour. Mais quelle mouche l'a piqué. Pardon François. Non, j'ai dérapé, excuse-moi. Non mais c'est vrai, François Hollande, potentiellement candidat. Bon, en tout cas, son ex-femme, Ségolène Royal, elle a dit « Quoi ? I'm surprised !» C'est... Non, je ne peux pas y croire. Pourquoi je prends l'accent anglais, elle n'est pas british hein. Dernier sujet qui a secoué notre attention aujourd'hui. Rigolez pas, Jimmy, on va bon à rire tout à l'heure. Il paraît qu'il y a de la maltraitance dans les EHPAD.
Ouais, sujet très grave.
Les pauvres vieux. Mais allez investir vos familles, les vieux, et laissez les EHPAD. Voilà, là, il y aura peut-être moins de maltraitance. Bon, enfin bref, nous allons l'aborder, justement, cette maltraitance dans les EHPAD. Plus sérieusement, c'est très, très, très inquiétant. 19h30, c'est Pascal Boniface et son billet d'humeur qui viendra nous livrer tout à l'heure. Et puis vous, au 01 53 48 3000. Le standard est ouvert durant une heure. Vous nous appelez partout en France. C'est parti, les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Bonjour, j'ai mal au cerveau. Vous savez quoi? J'ai pris un poteau tout à l'heure. Ah ouais, non mais attendez. J'étais sur mon portable, je marche comme tout le monde. J'ai pris un poteau en pleine rue.
Un peu comme Marine Le Pen.
Voilà les auditeurs. Alors je vous raconte pas, j'ai au milieu du cerveau là. Aïe. Quand je parle, ça résonne dans mon cerveau. J'ai l'impression que j'ai tombé par terre. Hein, vous viendrez me soutenir si je fais un malaise?
Bah, avec plaisir, ouais, oui. Hein. Sinon, il n'y a plus d'émission.
Bien sûr, Adil.
Attention, hein, je
viendrai te soutenir. Hein. Ouais. On fera une pétition pour toi.
Lifestyle, comme on dit. Jimmy Dalidou.
Tout à fait. Salut Adil.
Il m'a dit pour pas que je me loupe sur son nom, il m'a donné des petits mémos.
Comme Dalida, mais avec où à la fin?
Dalida, Dalidou. Dalidou, c'est ça?
C'est ça.
T'as été chercher ça où?
De.
Dalida, Dalidou.
Bah, c'est un moyen mémotechnique, comme ça, on s'en...
Ou Dalibi, comme l'autre boxeur.
Dalidou, ouais. Dalidou, c'est bien
d'accord. Il est délégué CGT.
Représentant CGT.
Absolument. Et vous êtes auteur, notamment, aussi.
Tout à fait.
Auteur dans quoi, d'ailleurs?
J'ai publié plusieurs articles sur le Grand Soir Info, d'ailleurs. Je salue toute l'équipe, Victor Dodage, tout le reste, qui sont des grands serviteurs de la liberté d'expression. Alors, plusieurs articles que vous retrouverez sur le Grand Soir Info et un livre qui s'appelle L'Évangile de la philosophie de la Révolution.
Vous savez que le Grand Soir est taxé quand même de complotiste, hein?
Oui.
Ouh là là.
Ouais, j'ai un peu de mal avec ça. C'est de la liberté.
C'est vrai, je ne raconte pas de bobards.
Ouais, mais il y a quand même. Pour ne pas avoir un débat, il y a quand même.
Il y a quand même, comme il s'appelle, ce présentateur vedette avec sa voix rauque, là. Il est encore chez vous, là, dans le Grand Soir, là?
Alors,
il fait une émission de temps en temps.
Il y a une responsabilité de la presse aussi, ça faut y faire attention. On peut avoir une liberté d'expression sur les réseaux sociaux et encore, parce qu'on peut tomber vite fait dans la désinformation, mais il y a débat.
Le Grand Soir, c'est quelque chose de sérieux, ils ont une analyse qui est, on va dire, les libertés d'expression.
Bon, on n'est pas là pour commenter Grand Soir.
Mehdi,
bonjour.
Bonjour, j'ai déjà commencé le débat, désolé.
Il est venu en cravate, lui.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
J'avais une émission avant sur une chaîne, je sais pas si j'ai le droit de le dire d'ailleurs, mais.
Allez-y.
Ah, bah, Vivre FM, la gros big up à eux. J'ai fait la primaire populaire, donc.
Avec qui?
Avec Daniel Goldberg.
Porte-parole
de Christiane Taubira. Madame Taubira n'a pas pu venir, malheureusement. Je fais des bisous. J'ai eu aussi.
Mais bah, en fait, tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes proche de Taubira ou quoi?
Non, arrêtez.
Oh. Je te fais des bisous.
Ma famille, je suis bonne humeur aujourd'hui.
Christiane, je te fais des bisous.
Je deviendrai le premier homme de France. Si elle
est... Ils sont fous. Ahmed Chriad, géopolitologue, comment ça va, Ahmed?
Merci, très bien.
Vous êtes venu sans cravate. Hein.
Ouais, sans cravate.
Sans cravate. Allez, messieurs, nous allons démarrer ce premier sujet. C'est Marine Le Pen qui parle de sa nièce, Marion Maréchal, qui dit de ne pas la soutenir à la présidentielle. C'est brutal, c'est violent, c'est les déclarations. Elle était invitée ce matin de la matinale de CNews. Écoutons-la et on vient commenter justement ses propos et la raison pour laquelle Marion Maréchal a décidé, peut-être, j'ai bien dit peut-être, c'est pas officiel, Éric Zemmour et non pas sa tante.
Bah écoutez, je pense que si je vous disais que ça me touche pas, personne ne me croirait. Voilà, donc j'ai avec Marion une histoire particulière parce que je l'ai élevée avec ma sœur pendant les premières années de sa vie. Donc évidemment, c'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi.
Vous attendiez à cette décision?
Non, on s'y attend jamais vraiment. Si vous voulez, je trouve que d'abord c'est une incompréhension politique déjà parce que elle avait indiqué qu'elle soutiendrait celui qui est le mieux placé. Bon, incontestablement, je suis beaucoup mieux placé aujourd'hui qu'Éric Zemmour parce que je suis donné au second tour et je crois, compte tenu des sondages de second tour, en capacité de gagner face à Emmanuel Macron. Donc ça, c'est déjà incompréhensible. Mais je suis à côté de l'aspect politique et à effectivement l'aspect personnel. Bon. Allez, passons à l'autre.
Eh bien, on voit qu'elle a du mal à digérer tout ça. Hein. Oui, c'est violent, c'est brutal.
Ça, elle gagnera un César.
Alors, effectivement, elle attendait que Marion, évidemment, lui apporte son soutien. Et grosse déception. Allez, Mehdi Jazeri.
C'était pas une déception. Enfin, tout le monde le savait, tout le monde en parlait. Elle le savait depuis très longtemps. Je pense que voilà, c'est juste. J'ai pas envie d'être un petit diable, mais bon, je vais dire cash. On dirait plutôt un coup de com. Je pense qu'elle en a besoin en ce moment. On a une extrême droite qui est complètement divisée. En fait, on a le même problème à l'extrême droite qu'à la gauche. Voilà. Globalement, c'est ça. C'est juste qu'en fait, on a deux candidats à l'extrême droite, bon, avec une Pécresse qui tend un peu dans les deux côtés, et une gauche qui est complètement divisée en 40 000. Donc voilà. Mais c'est pas le premier coup qu'elle s'est mangée aussi. Il y a le départ de Gilbert Collard aussi, qui le fait très mal. Et Marion Maréchal avait affirmé donc plaidé pour une candidature qui aurait plus de voix en fait, qui aurait plus de force. Aujourd'hui, on ne sait pas. Voilà, faut pas faire attention aux sondages. Mais visiblement, oui, en termes d'engouement, Éric Zemmour a beaucoup plus de visibilité, d'engouement autour de sa campagne.
Alors Jimmy, tiens, prenez la parole, Jimmy Dalidou.
Il y a pas de division à l'extrême droite. Bon. Je pense pas que ce soit. Pour moi, je pense qu'il faut pas confondre opposition entre classes sociales et opposition entre castes à l'intérieur d'une classe sociale. Pour moi, l'extrême droite reste l'extrême droite. C'est un poison. C'est un poison social, je dirais.
C'est pas la question.
Et je pense que c'est une manœuvre politique, en fait. En fait, c'est une différenciation politique. C'est une différenciation politique qui s'opère. Une semblance de différenciation. Pourquoi? Parce que, en fait, ça va leur permettre de créer des oppositions pour ensuite orienter les électeurs vers le Rassemblement National ou vers Zemmour ou en fait l'objectif c'est que ce soit Zemmour ou que ce soit Marine Le Pen ou que ce soit Marion Maréchal, ce qu'ils veulent c'est de faire voter extrême droite.
Oui, mais il y a forcément une division. Enfin, je veux dire à gauche ils font la même chose.
De faire croire qu'ils sont divisés. En fait c'est une même extrême droite qui se partagent, qui se sont dit bon toi tu vas jouer ce rôle là, toi tu vas jouer ce rôle là.
Ah donc c'est un complot.
C'est pas mal ce que vous dites.
Allez-y.
Jimmy.
Jimmy,
si je comprends bien, c'est forcément un complot.
Ah non mais attends. Problématique. Toi tu fais ça. Moi j'imagine ça comme un complot. C'est ah tiens Marine, elle appelle Zemmour. Bon Zemmour, toi tu vas jouer le grand méchant avec moi. Tu vas me voler toutes les personnes. Donc action. Marion, allez casse-toi, allez action. Moi je vais jouer la
vision un peu schématique.
Non mais enfin je veux dire, moi j'imagine la chose comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui imaginent la chose comme ça. Non, moi je pense sincèrement, vraiment qu'on a une extrême droite modérée, Marine Le Pen, et qu'on a une extrême droite bien extrême.
Il n'y a pas de modérée. Voilà. Il y a une comme extrême droite qui est un poison social. Point.
Oui, pour vous, non, mais d'accord, mais ça, il n'y a pas de souci, mais c'est pas la question. Là, la question, c'est qu'est-ce qu'on pense déjà de l'histoire avec Marine Le Pen. Moi, ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une division. C'est un fait.
Ouais, mais
excusez-moi.
Non, mais c'est parce qu'il y avait un échange entre
vous. Allez-y.
Non, mais attendez, je vous ai pas oublié, vous inquiétez pas.
Merci. Non, ce que je voudrais dire pour souligner, je pense qu'aujourd'hui,
il y a effectivement une tentation de la candidature.
Je crois qu'aujourd'hui, en fait, la candidature d'Éric Zemmour, il ne faut pas oublier l'objectif, c'est de dynamiter les frontières entre l'extrême droite et la droite, et de consolider le trio Wauquiez, Éric Zemmour et Marion Maréchal Le Pen.
Ben oui, c'est une incompréhension.
Pourquoi?
En réalité, il y a pas
pourquoi
de
pourquoi.
Attendez, surpris, hein.
Attendez, laissez-moi terminer. Pourquoi? Très simple. En réalité, les gens souhaitent l'union de la droite, et cette union ne peut être possible qu'à travers une union des candidats. Et on l'a vu à travers la primaire, lorsqu'Éric Ciotti parle de l'immigration, lorsqu'Éric Ciotti parle de la question de l'islam, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des électeurs de droite, qui sont tentés par la candidature Zemmour. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsque les candidats de droite, notamment Madame Pécresse, Xavier Bertrand, étaient contre une candidature d'Éric Zemmour à la primaire de droite. Souvenez-vous, s'il y avait eu une candidature d'Éric Zemmour à la primaire de droite, il aurait gagné majoritairement. Et les sondages, l'avait dit, même si les sondages, il faut avoir raison garder sur la question des sondages. Et moi, je pense que c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, les deux majeurs problèmes sont d'abord l'incapacité de la gauche à s'unir. On voit qu'il y a un bloc d'extrême gauche avec Mélenchon autour de 12 à 13%. Et on voit un autre bloc via la droite autour de 15, 16, 20. Et d'Éric Zemmour aux alentours de 12-13. Le rêve aujourd'hui, effectivement, des électeurs de droite et d'extrême droite, c'est effectivement de construire cette union.
Avant de parler d'union, il y a surtout cette incompréhension politique et donc, de Marine Le Pen qui dit ne pas comprendre
Et donc, par conséquent, aujourd'hui, Marine Le Pen n'est pas en capacité. Pour toi, la candidature
de Zemmour, elle est légitime.
Toute candidature aujourd'hui, qu'elle soit démocratique aujourd'hui, qu'elle se présente, elle est légitime du moment qu'il y a des électeurs derrière. Après, on peut critiquer sur le choix de modèle, etc., sur ses propositions. Ça, je parle de l'idéologie, mais sur la forme, effectivement, tout aujourd'hui, on vit dans une
société. Mais tu sais que Zemmour, en fait, il ne veut pas être élu, lui. Hein. Ce qu'il veut, Zemmour, c'est vendre des livres.
En tout cas, il se présente.
Zemmour, il a deux rôles, Zemmour.
Non, mais Zemmour, moi, il m'intéresse pas.
Jimmy Dalidou, et ensuite après Ahmed Chrien et Mehdi Jaziri.
Je vais comprendre pourquoi je te dis ça. Deux rôles. Vendre des livres, parce que depuis qu'il est candidat, il ne faut pas oublier qu'il a vendu un sacré paquet de livres. Donc le mec, son compte en banque, là, il a bien augmenté. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième rôle, c'est d'adoucir le Rassemblement National, ce que représente le Rassemblement National. Qu'est-ce qu'ils te disent, les travailleurs, quand tu discutes avec eux? Moi, je discute avec eux en ce moment. Quand je travaille de nuit, on a du temps sur un train de travaux. Ils te disent quoi? Ils te disent, ouais, ben Zemmour, le discours de Zemmour, si c'est voté pour ça, dans ce cas-là, je préfère voter pour Marine Le Pen et le Rassemblement National. C'est ça, son rôle. C'est d'adoucir le RN. Alors, t'as pas forcément tort dans le contexte politique que tu dis, mais ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où on rentre dans une analyse comme
c'est
tu
la
fais,
même boutique, hein,
dans l'analyse, deux élections, et là je vais utiliser un terme que ça va pas plaire,
c'est la même
ça
boutique,
va pas plaire à tout le monde, des élections, ce que j'appelle des élections bourgeoises, qui sont faites pour une classe sociale au pouvoir dominante et qui va continuer à exploiter la classe ouvrière, les couches populaires, à partir du moment où on rentre dans ces rouages électoralistes, on rentre indirectement dans un processus de manipulation, de domination.
Et ce serait voulu, ça?
Mais dis, Jaziri.
C'est vraiment une question que je vous. Selon vous, ce serait quelque chose qui serait préparé. L'idée d'adoucir. Enfin, ce serait vraiment un pacte entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Non, mais c'est une question que je pose.
Vous pour ça, en fait.
Répondez, bah oui ou pas non. Est-ce que oui ou non, ce serait quelque chose.
Non, mais donnez votre point de vue, L'idée, c'est de confronter votre point de vue.
Non, mais attendez, parce que.
On n'est pas à Marine Le Pen.
Sur ce qu'il dit, c'est vrai que la candidature d'Éric Zemmour, si je me permets, a permis de centraliser, de mettre dans le centre droit ou centre gauche la candidature de Marine Le Pen.
Oui.
Effectivement, les discours extrémistes et radicaux
qui m'intéressent, c'est d'Éric Zemmour sur la question de l'islam et de l'identité. Vous n'êtes pas là pour vous poser des questions les uns et les autres.
Attendez, si on regarde.
Sinon, dans ce cas-là, c'est pas la peine de débattre, les amis.
Je me permets juste, si on regarde en termes de chronologie, Marine Le Pen a essayé d'adoucir le Rassemblement National, d'ailleurs, d'où le changement de nom aussi, bien avant l'arrivée d'Éric Zemmour. Donc déjà, votre théorie ne tient pas debout, premièrement. Et ensuite, Éric Zemmour est en train de tacler Marine Le Pen. Dessus. Il lui a piqué des voix pour ça. Non, c'est grâce à ça qu'il a piqué des voix. Non, si Marine Le Pen était restée sur la ligne, sur la vraie, sur la même ligne depuis, enfin, celle des anciennes années, mais jamais de la vie, il aurait été aussi puissant.
C'est pas, c'est, en fait, faut, c'est une ligne fasciste qui prend un paravent social plus adouci pour
quelquefois les choses sont plus simples.
Le débat, messieurs, le débat continue. On marque une pause. 01-53-48-3000, dites-nous ce que vous en pensez, vous, hein, justement, Marine Le Pen, toute cette sphère, justement, du Rassemblement National, Marion Maréchal, Éric Zemmour, tout cela. 01-53-48-3000, on marque la pause, publie, on se retrouve tout de suite après.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Les informés, les 19h20, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, bienvenue, les informés, c'est au 01-53-48-3000, je vous attends partout en France, pour venir échanger avec nous, livrer votre témoignage concernant Marine Le Pen, Marion Maréchal, la sphère évidemment du Rassemblement National, mais également aussi le potentiel soutien de Marion Maréchal auprès d'Éric Zemmour. Les informés, c'est aussi avec Ahmed Chriat, comme débatteur influenceur, avec Mehdi Jaziri, avec Jimmy Dalidou.
Les informés, le face-à-face.
Messieurs, tout de suite, allez, on va poursuivre avant de passer au second sujet. Je voudrais vous poser cette question, effectivement, qui est dans l'esprit de pas mal de gens. Finalement, Marion Maréchal, est-ce qu'elle finira par soutenir Éric Zemmour? Oui ou non, selon vous? C'est déjà écrit, je ne sais pas, je pose la question en tout cas. Tiens, Mehdi Jaziri.
En fait, elle a dit concrètement qu'elle va plaider, je cite, pour une candidature unique derrière le mieux placé. Là, vraisemblablement, c'est Éric Zemmour qui est le mieux placé, du moins sur son bord politique. Voilà. C'est sûr et certain. Enfin, je veux dire, il y a même plus à se poser la question. Et c'est pour ça que Marine Le Pen s'est mise dans ses états à la télévision. Tout le monde le sait. Je veux dire, faire semblant de pas le comprendre, c'est être idiot. Voilà.
Oui, souvenez-vous, Éric Zemmour était parti visiter l'école de Marion Maréchal Le Pen où il avait fait une interview il y a un an de ça.
Exactement.
Elle avait effectivement, de façon très claire, on avait vu déjà le soutien indirect de Marion Maréchal Le Pen vis-à-vis du candidat Zemmour. Mais ce qui distingue réellement, en tout cas dans le logiciel idéologique entre Marion Maréchal Le Pen et Marine Le Pen, c'est sur trois volets fondamentaux. Le premier, c'est sur la question de l'islam. Marine Le Pen ne croit pas que l'islam est un danger pour la République, ce que Éric Zemmour croit. La deuxième des choses, c'est sur
Marion Maréchal Le Pen,
qui est sur l'île identitaire. La deuxième des choses, c'est sur la question de l'Union européenne. Marine Le Pen croit à l'Union européenne, croit aux institutions européennes. Elle souhaite être au sein de l'Union européenne, ce que Marion Maréchal Le Pen et Éric Zemmour ne souhaitent pas.
Exactement.
Et la troisième des choses, c'est sur le volet social. Marion Maréchal Le Pen, aujourd'hui, elle a, en tout cas, dans son programme politique, elle développe ce qu'on appelle une vision gaullienne, sociale gaullienne, en tout cas, et ce qui n'est pas le cas, effectivement, de Marion Maréchal Le Pen et Éric Zemmour, qui est, lui, pour la retraite, 65 ans, etc., dans son programme politique. Afin de connaître les candidats, il faut lire aux prémices leur programme politique pour cerner l'idéologie. Même si, et je le dis, la stratégie, c'est l'union des droites, effectivement, pour qu'on puisse avoir un candidat qui puisse être prêt à confronter le candidat Emmanuel Macron ou le prochain qui sera au deuxième tour.
Et ça a été d'ailleurs un slogan d'Éric Zemmour.
Comment ?
Éric Zemmour aussi l'a mis sur... J'ai vu une photo justement d'Éric Zemmour 2022, l'union des droites. Et il l'a mis après que Gilbert Collard, Damien Rieux d'ailleurs, qui est très bon sur Twitter, même si je partage pas ses idées, il avait marqué l'union des droites. Il rassemble tous les gens des LR, il se permet en fait de faire son marché, et il appelle ça l'union des droites. Donc enfin, vous avez raison. Oui.
Enfin, un dernier point qui est fondamental aussi, que j'aimerais mettre en évidence, c'est sur la question aussi du choc des civilisations. Marine Le Pen aujourd'hui dit qu'il faut un dialogue avec le monde musulman, avec des puissances comme la Chine, la Russie, etc., même les États-Unis. Marine Le Pen ne fait pas de discours anti-américain, ce qui n'est pas le cas aussi d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal Le Pen. Aujourd'hui, Marion Maréchal Le Pen et Éric Zemmour font la promotion du dialogue de Samuel Eglinton, l'idéologie du choc.
Il n'y a pas d'opposition entre Marine Le Pen et l'islam.
Juste terminé, du choc des civilisations. En tout cas, Marion.
Je veux dire, c'est ce que tu as dit.
Non, oui, c'est ce que j'ai dit. Marine Le Pen ne dit pas que l'islam est un problème.
Pour moi, c'est grave ce que tu dis.
Elle ne le dit pas.
Il n'y a pas d'opposition entre Marine Le Pen et l'islam.
Non, mais. Peut-être qu'elle ment, mais en tout cas, ce qu'elle déclare,
t'oublies pas les propos qu'elle a tenus en disant que dans les quartiers populaires, les musulmans étaient.
Non, elle n'a pas dit les musulmans.
Elle l'a dit différemment, d'une manière plus adoucie qu'Éric Zemmour. Oui, évidemment.
Si tu fais de l'interprétation, mais elle ne dit pas les musulmans, elle a dit des islamistes.
Plus d'une fois. Ouais, mais elle a parlé des islamistes, en semant la confusion entre.
Mais là on joue sur les mots.
En tant que
Mais non.
Qu'est-ce que ça veut dire islamisme? Elle a semé la confusion et dans les quartiers populaires notamment, elle disait que la plupart des jeunes musulmans étaient des délinquants, des moins que rien,
Et tu n'oublies pas ces propos-là.
Elle a dit ça.
Si elle le dit, moi, je le condamne. Si elle a dit ça, je le condamne de façon catégorique dans les quartiers populaires. Il y a effectivement des gens qui sont désintégristes. Il existe des intégristes dans les quartiers populaires. Il ne faut pas le nier.
Elle l'a dit d'une manière avec. Si tu vois, un bouquet de fleurs.
Attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Il existe. C'est pas un débat sur. Il existe effectivement dans des quartiers populaires, mais pas simplement dans des quartiers populaires, même dans des provinces, etc., des extrémistes, mais il existe aussi des gens, des entrepreneurs, des gens qui créent des entreprises dans les quartiers populaires. Je pense qu'il faut avoir un équilibre, et voilà. Mais si, c'était ça ses propos, bien évidemment que je les condamne.
On n'a pas entendu Jimmy.
Je vous rejoins sur ces propos.
Jimmy, ensuite je vous redonne la parole, Mehdi. Jimmy Dalidou.
Pour moi, je resterai sur ma ligne, c'est-à-dire que sans parler de complotisme, Mehdi, tu parlais de complotisme, non, je ne suis pas complotiste, je suis scientifique, mais je pense que. Versé dans cette analyse qui consistait à dire Marine Le Pen elle est mieux parce que Zemmour configure.
Il n'y a pas de mieux ou pas mieux. Excusez-moi, on fait un constat. Marine Le Pen est visiblement bien plus modérée qu'Éric Zemmour sur le papier.
Non, mais écoute, l'extrême droite, elle a un objectif, l'extrême droite. L'extrême droite a un objectif. Actuellement, l'extrême droite en France, c'est la régénérescence du capitalisme français qui s'est cassé la gueule depuis la crise des subprimes de 2008. C'est ça l'objectif de l'extrême droite en France. Donc que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Marion Maréchal, que ce soit Zemmour, c'est la même, et je vais utiliser un terme que j'assume, c'est la même pourriture sociale.
D'accord.
Il a droit à une clochette.
Mais c'est bien, vous faites en tout cas moi
c'est mon avis.
Non, mais vous avez votre avis, je respecte votre avis tout à fait. Et mais en revanche, moi je pense qu'on peut pas non plus nier des faits. Sur le papier, Marine Le Pen paraît beaucoup plus modérée, Éric Zemmour lui beaucoup plus radical.
Pareil.
Mais c'est ce qu'ils vendent. Enfin, je veux dire,
ce que vous devez comprendre, c'est qu'il faut faire le distinguo entre analyser des programmes politiques et on a l'impression quand on vous écoute, c'est que quand on décrit un programme politique, on n'y adhère pas forcément. Oui. On est là pour commenter un programme politique. Et ce que moi je disais, ce que je mettais en évidence, c'est qu'il y a un distinguo de façon. Attendez, laissez-moi terminer.
Je vous ai pas dit que j'allais voter Zemmour ou Marine Le Pen.
Attention, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui est important parce qu'on est aujourd'hui ici en train d'analyser, de commenter l'actualité, c'est que. Il y a un distinguo à faire dans les programmes politiques. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas juge. Je ne juge pas les intentions, je ne sonde pas les cœurs. Et par conséquent, je fais bien le distinguo entre les sujets importants, entre Marion Maréchal Le Pen, qui est sur une ligne identitaire, sur la question de l'Union européenne, sur la question du libéralisme économique, sur la question de l'islam, sur la question du choc des visations, et Marine Le Pen, qui tient un autre discours sur ces questions-là. Je voulais simplement souligner ces choses-là qui étaient dans le programme politique. Voilà.
Donc, il se passe exactement la même chose.
S'il vous plaît, Jimmy. Dalidou, et ensuite Mehdi Jaziri.
Sur le choc des civilisations, comme tu dis, de toute façon, je pense que elle a déjà lieu, elle aura lieu, et que ce soit Marine Le Pen ou Zemmour ou qui que ce soit, de toute façon, elle aura lieu. Tu sais pourquoi ? Parce que ce qui génère le choc des civilisations, c'est moi je garderai ma ligne, c'est la lutte, c'est la domination d'une classe par une autre. C'est le fait que dans un pays comme la France, dans les différents pays impérialistes, le système est conditionné. C'est ce qu'on appelle le mode de production capitaliste. C'est-à-dire que le système est conditionné par la domination d'une classe sur une autre. Et le choc
et des civilisations
est la résultante, d'un mode de production qui est non seulement devenu obsolète, j'en suis certain, il est devenu obsolète, qui vit sur des miettes depuis la crise des subprimes de 2008, et qui est le quatrième mode de production, il y en a eu trois autres à travers l'histoire, et qui à un moment va se casser la gueule. De toute façon, t'as pas besoin de créer une corrélation entre les différents personnages, Zemmour, Marine Le Pen, la corrélation entre eux et le choc des civilisations. C'est l'essence de classe, la domination d'une classe, qui génère le choc, qui génère naturellement le choc des civilisations. Donc que ce soit Marine Le Pen ou je sais pas qui là, c'est exactement la même chose.
Bon, moi je crois qu'effectivement.
On dirait qu'on est à la révolution des bolcheviks.
Non, mais sur la question économique.
Parce que ça, non.
Sur la question économique. Moi je pense que, Adil Farkan, nous n'avons pas le temps malheureusement de faire ici un colloque sur l'économie, mais je l'inviterai peut-être à débattre sur les questions économiques. Parce qu'on peut parler comme ça de capitalisme, mais je veux dire, on est tous partie prenante. Attendez, laissez-moi terminer, vous avez parlé beaucoup, j'ai parlé peu. On est tous partie prenante du capitalisme. Vous avez une montre, vous portez des Nike, vous portez une belle veste à ce que je vois ici. Donc, on est tous des consommateurs. Mais sur cette question-là.
On est devenus tous dépendants, oui, tout à fait.
On pourra en parler si vous voulez. Ce qu'on appelle la mondialisation ou ce qu'on appelle la globalisation d'un point de vue économique. Voilà, je suis pas
la
ici.
La globalisation.
Voilà, la globalisation, pour être plus clair, mais je ne veux pas ici être un peu faire le pétant ou donner des cours d'économie, mais on pourra discuter si vous voulez un jour, débattre sur ces questions-là, ça m'intéresse aussi. Et donc, moi, je pense aujourd'hui, effectivement, que, aujourd'hui, sur la question effectivement du capitalisme, oui, Il y a effectivement des questions à se poser sur la question écologique aujourd'hui, sur le mode de production. Et je vais dire aujourd'hui, remettre ça en question. Il y a même aujourd'hui des financiers qui remettent ce modèle de production en question aujourd'hui. Vous n'avez pas, vous, le monopole de la défense des pauvres ou des ouvriers, comme un financier n'a pas le monopole de la richesse. Je veux dire, aujourd'hui, c'est l'humanité tout entière qui doit se remettre en question sur ces questions de modèle de production. Et je veux dire, on vous a pas attendu, vous ou moi, hein, je me mets aussi dans le paquet, d'avoir des débats sur ces questions-là aujourd'hui. La question écologique, elle est même partie prenante dans des pays ultra-libérales, que ce soit les États-Unis ou la Chine, etc. La conférence de Paris sur le climat, etc., a permis de signer, je vous le rappelle, au sein des Nations Unies. Il y a des initiatives aujourd'hui diplomatiques qui sont là. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, voilà, il faut aujourd'hui lancer ça.
Vous lui avez fait plaisir quand vous avez dit que la Chine était ultra-libérale.
Voilà, donc
ça lui fait plaisir, ça.
J'aime bien, je préfère le terme de social-impérialiste, mais bon.
Si vous voulez, donc, bon, l'impérialisme, on peut le décrire, etc., mais je veux dire, on est tous impérialistes en quelque sorte, même dans nos familles. Mais c'est un autre débat, comme dirait un philosophe. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut en tout cas lancer ces initiatives-là. La société civile, comme vous l'avez vu, est partie prenante dans des forums internationaux, ce qu'on ne voyait pas à l'époque, il y a 20 ans ou 15 ans. Et ça, aujourd'hui, il faut le saluer.
Mais en tout cas,
Messieurs, le quoi de neuf, je veux le lancer. Le débat continue. Dans les informés, justement, on continue de parler. Et on reviendra sur François Hollande. Il dit, je vais bientôt prendre la parole. Alors, est-ce qu'il sera candidat ou pas? Juste après le quoi de neuf, 19h30, on lance le jingle.
Les informés, le quoi de neuf.
Pascal Boniface, bonsoir.
Bonsoir Adil.
Comment ça va? Quel plaisir de vous retrouver, mon cher Pascal.
Eh bien, ça va très bien et quel plaisir de vous retrouver, Adil.
Le patron fondateur de l'IRIS et on vous écoute pour votre signature aujourd'hui concernant le coup d'État en Afrique.
Voilà, alors coup d'État en Afrique, et il y a quand même beaucoup de choses qui changent parce que pendant très longtemps, on se félicitait du fait que la démocratie progressait en Afrique, le pouvoir se prenait de plus en plus par les urnes et pas par les armes. Et puis là, coup sur coup d'État en Guinée, coup d'État de même au Mali,
c'est ça.
Coup d'État au Burkina. Et donc, bah, effectivement, ce n'est plus vraiment la même chose. Et en même temps, aussi surprise, on voit que ces coups d'État, du moins au Mali, et peut-être au Burkina, il faudra voir, ne sont pas rejetés par la population. Il y a un soutien de la population, et donc je dirais que c'est presque encore plus grave, c'est qu'il y a une vraie crise de la démocratie, c'est que la population en avait assez des régimes démocratiques, elle estimait que la démocratie ne délivrait pas ce qu'elle avait promis, et qu'il y a un soutien, alors il faudrait voir jusqu'à quelle ampleur, etc., un soutien au nouveau régime guinéen. Et puis, l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest sanctionne les États putschistes, coupe les liens. Donc du coup, ces nouveaux gouvernements jouent un peu sur un réflexe patriotique pour dire c'est l'étranger qui nous en veut, etc. Ce qui est positif, c'est que pendant très longtemps, les pays africains laissaient chacun un maître chez soi. Mmh. Il y avait coup d'État sur coup d'État, personne ne disait rien. Je pense que le fait que la CEDEAO est une exigence d'un critère démocratique et une bonne chose.
Exact.
Et en même temps, on voit que le Mali, notamment, joue sur cette condamnation étrangère. Et les putschistes au Mali disent on a besoin de 5 ans pour remettre le pouvoir aux civils. Ce que je pense, c'est que ces pouvoirs militaires, je doute qu'ils soient plus efficaces que les pouvoirs civils, y compris en pur terme de sécurité. Mais en même temps, il faut admettre que la démocratie ne suffit pas. Le fait d'avoir des élections civiles ne suffit pas si le régime n'est pas au service de la population. D'où cette très grande insatisfaction des populations qui estiment que, bon, d'accord, on a voté librement pour quelqu'un, mais ensuite, ce quelqu'un ne s'est pas mis réellement au service du pays. Et puis, pour la France, c'est quand même aussi un défi majeur, puisque nous étions proches de ces régimes, nous sommes présents militairement au Mali, et également d'une autre façon au Burkina. Donc, l'avenir de la présence militaire française au Sahel, telle qu'elle est, elle est fortement mise en question. Et il faudrait réfléchir. Pourquoi sommes-nous rejetés maintenant? Il suffit, bien sûr, on peut accuser la propagande russe, bien sûr, tout ça existe. Mais ça ne suffit pas à expliquer le fait qu'on ait perdu une partie de notre popularité. Et je pense qu'il y a peut-être l'usure du pouvoir, il y a la mémoire coloniale, mais que nos débats internes, politiques, de politique intérieure, où l'autre, l'étranger, l'Africain, le musulman est toujours pointé du doigt, contribue un peu à cette moindre prestige de la France. Donc on a un pays électoral, ça devrait être l'occasion d'un grand débat sur tout ça. Je crains que ça ne le soit pas.
Eh bien, effectivement. On va suivre de cela de très très près, parce qu'effectivement, j'ai le sentiment parfois que l'Afrique est en train de se redessiner, mon cher Pascal Boniface.
Oui, bien sûr, mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Elle a repris en main son destin. Elle est sortie du face-à-face avec les puissances coloniales, mais en même temps, elle se rend compte que, bon, la Chine, c'est bien que la Chine soit présente, ça ouvre des nouveaux horizons. Et en même temps, de nombreux pays africains se rendent compte que la Chine n'est pas là pour leurs beaux yeux, qu'elle est là aussi pour piquer leurs richesses et pour, des fois, faire le piège dans la dette. Donc, l'Afrique était abandonnée dans les années 90. Maintenant, elle est courtisée de multiples façons. Mais en même temps, on voit bien quand même qu'il y a là un recul, et je ne parle même pas de ce qui se passe en Éthiopie, où quand même un prix Nobel de la paix est accusé de crimes contre l'humanité. Au Soudan, c'est un pouvoir militaire qui est venu confisquer cette révolution démocratique qui satisfaisait tout le monde. Et puis on voit aussi qu'au Maghreb, il y a quand même beaucoup de... En Tunisie, qui était le modèle de la révolution démocratique, où le nouveau président... établi un régime autoritaire.
Merci mon cher Pascal Boniface, on vous retrouve non pas vendredi, mais jeudi prochain, comme tous les jeudis d'ailleurs, à 19h30 précise. Je vous souhaite un excellent week-end mon cher Pascal Boniface.
De même Adil, et de même à vos autres invités, et bien sûr aux auditeurs.
Merci infiniment, prenez soin de vous, 19h35, on marque la dernière pause pub, on se retrouve dans une poignée de minutes, mesdames et messieurs, pour les informer avec Amit Chriet, avec Mehdi Jaziri, avec Jimmy Dalidou, pour parler de François Hollande et sa candidature à la présidentielle. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
53-48, 3000, on vous attend et on va parler de traiter du sujet concernant François Hollande. Alors, messieurs, quand il dit « je vais bientôt prendre la parole », Amit Chriet, comment doit-on l'interpréter?
Oui.
François Hollande qui, en fait, c'est un pied en avant, 10 en arrière, 10 devant, 10 derrière. C'est, en permanence, c'est ça, au fait, avec François Hollande.
Ça a été 5 ans en arrière, de toute façon.
Écoutez, François Hollande est quand même était un ancien président de la République.
Alors, est-ce qu'il va rentrer?
Il mérite quand même le respect parce qu'il était quand même ancien président de la République et donc il a été, on doit toujours appeler, le président de la République. Ça, c'est juste un peu les formes. Mais je crois que François Hollande, aujourd'hui, voit effectivement qu'il y a un émiettement de la gauche, du Parti Socialiste. Et donc là, il y a le feu à la maison. Par conséquent, aujourd'hui, François Hollande souhaite régler de façon drastique les problèmes, en tout cas les déchirements internes qu'il y a au sein du Parti Socialiste. Fort ne soutenait pas Hidalgo, comme vous le savez. Aujourd'hui, on voit une candidature fantôme, Taubira, qui vient de nulle part, qui n'est pas passé par la primaire et qui fait 5%, et d'ailleurs on ne sait pas si elle a toujours les signatures ou pas, donc on voit en quelque sorte que aujourd'hui il y a le feu à la maison au sein du Parti Socialiste, et voire même un éclatement, voire un effacement de ce parti-là, qui est quand même un parti historique, la SFIO, etc., qui existe depuis 1903, de mémoire, 1903 je crois, et donc je crois que là il y a un débat à avoir, et François Hollande, en ancien président responsable, veut prendre la parole effectivement. Une candidature.
En tout cas, il laisse
pas
aller le doute.
Les médias.
Il laisse pas aller
les médias.
Oui, mais son doute, il est ridicule, il est grotesque. Enfin, au bout d'un moment.
Sur ce. Attendez, mais... je vous donne la parole.
Sur cette question-là de la candidature de François, moi, j'y crois pas. Je pense que peu d'analystes, éditorialistes n'y croient pas à cette candidature-là. C'est plutôt, aujourd'hui, essayer de remettre la machine en marche du Parti Socialiste et, en tout cas, d'avoir un seul candidat et de mettre de l'ordre. François Hollande, aujourd'hui, prend la parole pour mettre de l'ordre, au sein du Parti Socialiste, et son axe d'action ne peut que se résumer qu'au sein du Parti Socialiste. C'est tout.
Mais
en fait, être le papa de la gauche, c'est cool, c'est mignon, mais là, redevenir président, c'est ridicule. Enfin, non, mais sincèrement, enfin, je veux dire, il faut pas qu'il oublie que si c'est pas présenté en 2017, c'est parce que personne ne voulait de lui, ni ailleurs, ni dans son camp. Plus personne voulait de lui. C'est grave. Je pense que même sa mère ne voulait pas qu'il se présente. Mais je le dis sous un ton un peu méchant, mais au bout d'un moment, il faut comprendre un peu les choses. C'est-à-dire que là, en fait, on fait que ajouter des candidats et on pense que ça va faire tourner le truc. La gauche est en train de mourir. C'est pas juste le problème de François Hollande. La gauche, désolé, je sais que vous êtes attaché à la gauche. La gauche meurt. La gauche meurt. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous en parlais en off justement.
Pour moi,
je vais vous dire, on a un nouveau paysage politique. On a un nouveau paysage politique qui est en train de se dessiner. C'est le mondialisme contre le souverainisme. Le mondialisme, c'est les vendus aux Américains. C'est les vendus aux Américains, comme Monsieur Hollande par exemple. C'est les vendus aux Américains. Et on a les souverainistes qui veulent rester qu'entre eux.
Ou alors division sociale du travail internationalisé, c'est mieux aussi.
Non mais Voilà, en fait, je veux bien le discours de Bolchevik qu'il y avait tout à l'heure était bien drôle, mais là, au bout d'un moment, il faut parler concret. Nous sommes en France, pas en Russie, et nous sommes en 2022 et pas en 1950. Donc, au bout d'un moment.
Je veux dire, franchement.
Jimmy Jalidou.
Tu vas chez les cheminots. Là, maintenant, tout de suite, on descend tout de suite. On va dehors.
Je me fais taper.
On va chez les cheminots. On va chez EDF. Tu vas chez l'hôtelleriste, chez le restaurateur. Tu lui dis.
Chez les postiers.
Ouais, chez les postiers. Tu lui poses la question. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'a dit François Hollande? Il va dire, j'en ai rien à foutre.
Oui, mais tout le monde en a rien à foutre.
Ça, c'est vrai, je confirme.
Ce que je veux, c'est qu'on augmente mon salaire, c'est qu'on apporte des conditions de travail adéquates.
Oui, mais c'est bien beau de dire ça. Faut trouver des solutions. Faut trouver des solutions maintenant. Vos représentants ne font rien. Ils sont en train de se faire gagner par cette idéologie macroniste, mondialiste. Oui, je suis pas complètement contre ce que vous dites, hein. Mais je trouve que vous avez quelquefois, la facilité dans ce que vous dites. Non, mais il faut voir les choses.
Mais ça ne fonctionne plus parce que les Français.
Amit Shriev l'a très bien dit. C'est bien plus compliqué que ça. C'est bien plus compliqué que ça.
C'est pas compliqué. T'as une classe qui en domine une autre et qui se fait un max de fric en exploitant la force de travail.
Toute la classe est méchante. Attention, nous avons les grands méchants loups qui sont en train de bouffer les pauvres petits cheminots. Bien évidemment que je comprends que la situation est compliquée, mais il ne faut pas faire de généralité. Il faut garder son calme, monsieur. Il faut garder son calme. Il faut garder son calme. Si vous voulez réellement passer un message, il faut garder son calme.
François Hollande, il est calme, Jimmy. Alors François Hollande.
Non, en fait, bon, franchement,
ramène tout au marxisme.
Ouais, t'as vu.
Ramène tout au marxisme, ouais. C'est le problème.
Mais après, c'est un passionné. Moi, j'admire les passionnés.
C'est une boutade. Je parle de toi. Non, franchement, François Hollande, je m'en tape. Et de plus, je pense que ce débat, c'est une dérive populiste. Voilà. Ce qui fait un pays, ce n'est pas un personnage. Ce qui fait un pays, c'est la totalité des forces productives. C'est la totalité des forces de travail de la nation. C'est ça qui fait une nation. Mmh. Donc, ce n'est pas un personnage. Donc, finalement, orienter notre analyse vers un personnage, uniquement un personnage, c'est une dérive populiste qui est une négation de ce qu'est une cohérence.
Vous savez ce qu'il dit ? Vous êtes d'accord avec Anne Hidalgo, alors ?
Comment ?
Vous êtes d'accord avec Anne Hidalgo ? Qui salue son humour.
Je n'ai pas écouté ce qu'il a.
Elle salue son humour.
C'est vrai qu'il a beaucoup d'humour.
Oui, mais il est très drôle. Mais qu'il aille faire un one-man show.
Elle dit, elle salue son humour.
Mais qu'il aille faire un one-man show avec Jean-Luc Mélenchon, il ferait un carton. Il ferait un carton, les deux. Mais c'est incroyable. Non, mais. Je voulais finir là, quand je parlais justement du nouveau paysage politique. Non, mais sincèrement, là, la gauche, en fait, sincèrement, ça va devenir.
Elle a dit.
Ça va devenir. Elle a dit. Extrême qui va avoir plus occupé.
François Hollande a beaucoup d'humour. Il a fait preuve de beaucoup d'humour devant ses élèves de seconde. Oh. Je ne suis pas là pour commenter les petites phrases, mais celles de François Hollande.
Je crois que.
Anne Hidalgo.
Très fort, bravo. J'ai pas voté pour vous.
Le drame de cette affaire-là, c'est que ça va accélérer aussi et ça va intensifier les abstentionnistes aujourd'hui. Quand les gens et quand les Français, il l'a dit, Jimmy, c'est ça ?
Pardon, ouais,
Jimmy, il l'a dit aujourd'hui. La première chose aujourd'hui, la première préoccupation des Français, c'est la question du pouvoir d'achat. Pas plus tard que hier, il y a eu un sondage qui est sorti et qui parle clairement que la première priorité des Français, c'est pas la question de l'immigration, c'est pas la question de l'identité.
C'est le pouvoir d'achat.
Ce n'est pas la question de l'islam, c'est la question du pouvoir d'achat et de l'augmentation des salaires. Aujourd'hui, les Français veulent savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre dans leur pain, qu'est-ce qu'ils vont payer, c'est les factures qu'on doit payer, c'est la question de l'énergie, c'est ça.
Très juste.
Et je crois que cette question-là, aujourd'hui, le Parti
40% d'augmentation au niveau
et l'écologie est quand même quelque chose de bien assez, de bien
abandonné. Et aujourd'hui, au lieu d'avoir un Parti socialiste qui fait force de proposition, un ancien président de la République quand même, qui a gouverné ce pays-là, qui a une expérience aujourd'hui. Au lieu de proposer des solutions sur le pouvoir d'achat, aujourd'hui, nous en sommes, on en est à commenter quelque chose sur François Hollande soit candidat ou pas. Ouais. Quand on va dans une course à la présidence, on s'y prépare. Quand vous êtes athlète et que vous voulez courir un marathon, vous vous y préparez, monsieur. Vous ne faites pas un marathon 4 jours ou une semaine avant. On s'y prépare 6 mois, 1 an, 2 ans avant.
Et je crois
aujourd'hui le scénario qui se répète avec Madame Taubira, François Hollande et Hidalgo. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà de commenter ça, il faut falloir aujourd'hui proposer un vrai programme politique. Et c'est là où, effectivement, d'autres candidats ont des programmes politiques. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment, en tout cas, mettre la question du pouvoir d'achat en priorité, c'est ce qui concerne les gens, c'est ce qui est important pour les Français.
Mais dis-je, Zéry.
Moi, je suis d'accord avec vous sur le pouvoir d'achat. J'ajoutais même l'écologie.
Vous êtes toujours d'accord avec moi.
Bon, quand même pas. La dernière fois, c'était lui qui avait dit la dernière fois que Macron n'était pas son président. Ah, ouais, bon. Alors, je suis pas d'accord avec vous. Je me détache de vous, monsieur.
Non, c'est pas mon président non, techniquement, j'ai pas voté pour Macron.
Oui, bon, voilà. Mais en tout cas, non, je rajouterais même l'écologie, parce que l'écologie, on faut qu'on lise, c'est pas parce qu'il y a des communistes avec une casquette verte qu'il faut, arrêter de s'intéresser à cette question. Désolé, je suis désolé.
Là, il y a peut-être un câble.
Mais en fait, voilà. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a plus assez de propositions, il n'y a plus assez d'idées. Le débat, c'est sur quoi? C'est sur un tel a dit ça, un tel a dit ça, un tel a fait ça. Mélenchon qui se fout de tout le monde, qui fait des blagues sur tout le monde, qui critique tout le monde, mais au final qui ne fait rien concrètement. Donc en fait, on n'a que des candidats absents qui ne servent à rien. Voilà pourquoi je dis que la gauche meurt. Voilà.
On n'a que des blaireaux en fait.
Oui. Candidats, désolé.
C'est tous des gars qui sont au service du grand capital, du CAC 40, et ils espèrent être élus.
Mais c'est pas bon pour vous de dire ça, non?
Avoir le portefeuille qui va bien. Voilà, on s'en fout.
Bon. Le débat.
Allez, messieurs, pas de commentaires.
Allez, 19h45, pas de commentaires pour Amit Chriette. Dernier sujet qui a retenu notre attention, c'est la maltraitance dans les EHPAD. Alors là, on veut en parler. Parce que le gouvernement, lui, il prépare des mesures, vous savez quoi, pour renforcer les contrôles et les suivis, justement. Oui, les patrons des maisons de retraite ont bien du souci à se faire, parce que, effectivement, on a noté plein de petites choses. En tout cas, une inspection a été lancée auprès des EHPAD, avec des soupçons. Après des soupçons de maltraitance quand même. Hein. On ne parle pas simplement de maltraitance, on parle là-dessus auprès de nos personnes âgées. Alors messieurs, je vais tourner évidemment le micro, et je voudrais vous entendre là-dessus, nous dire effectivement d'abord comment vous réagissez et comment vous accusez ces graves dysfonctionnements dans ces EHPAD justement.
J'ai des petites infos en plus, parce que Vivre FM se trouve dans une EHPAD, donc en fait toutes les EHPAD en fait se connaissent. En fait, la fondation, c'est justement une EHPAD aussi à côté, ils s'occupent des personnes handicapées.
La fondation EHPAD
OVE. Oui, la fondation OVE s'appelle. Il y a une EHPAD à l'intérieur. Donc en fait, on m'a raconté que pas là-dedans, mais dans plein d'EHPAD différentes, en fait, on avait énormément de viols. Voilà, ça arrive très fréquemment, oui, d'agressions sexuelles, d'attouchements, du matériel qui finalement est absent, parce que voilà, quand on parle de maltraitance, ça peut être aussi du matériel qu'il n'y a pas en fait, tout simplement, qui est donc voilà, les gens ont besoin de matériel en fait, et ils l'ont pas. Il y a une gestion financière qui est totalement ridicule. Moi, si je pouvais faire un comparatif, c'est ce que je le disais en off, je comparais ça à la situation de la police, c'est-à-dire qu'on a énormément d'argent, mais qu'on l'investit dans tout et n'importe quoi, qu'on ne sait pas gérer cet argent. Et qu'au final, il y a des gens qui en souffrent, et c'est très grave. Et l'État, moi, ce que je trouve vraiment déplorable là-dessus, c'est l'État, comme tous les dirigeants politiques d'ailleurs, se servent de cette situation une fois que c'est grave,
Nos aînés sont justement systématiquement maltraités? C'est ça.
Systématiquement.
Vous dites que les EHPAD hébergent la vie.
Sinon, on l'aurait su beaucoup plus tôt.
Est-ce que nos aînés sont-ils?
Non, pas systématiquement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une maltraitance psychologique, physique et matérielle. Ça, c'est sûr et certain. J'ai pas lu. Il y a un livre qui est sorti. J'ai pas lu tout le livre. Je me suis juste documenté un peu dessus et j'ai discuté avec des gens d'EHPAD. Et en fait, voilà, ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on a l'État. Et justement, je vais vous dire même, on a l'État et on a des dirigeants politiques qui se servent de cette situation une fois que c'est grave, une fois que ça sort, pour en faire encore une fois de la politique. Ils n'en ont rien à faire. Il n'y a jamais rien qui a été fait pour ces gens-là.
De nombreuses défaillances dans les systèmes.
Voilà.
Une pensionnaire, écoutez bien, laissée comme un animal sur un lit d'hôpital, et elle a été décédée aux urgences.
Mmh, ouais. Et ça encore, c'est pas la pire histoire. Parce qu'il y a des choses bien plus graves.
Des résidents filmés dans des positions dégradantes dans l'Aveyron.
Et oui.
C'est terrible, hein. Terrible. On fait un tour de table. Jimmy Dalidou.
Ce sujet est particulièrement important parce que il reflète
bien
le fait que en fait on a affaire à ce qui se passe dans les EHPAD, c'est la conséquence des choix politiques des différents gouvernements, qui étaient des choix faits d'injustice sociale, de précarité, de privatisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma famille, j'ai un proche qui a été je connais un peu le sujet. Il faut compter plus de 12 000 euros sur 2 ans. Il faut compter plus de 12 000 euros pour faire hospitaliser un de ses proches en EHPAD.
Et les 12 croix d'assises,
une partie est prise en charge par le conseil régional.
Sans pitié, hein.
Donc déjà, bon, effectivement, bon, indépendamment de d'autres sujets qui sont, ma foi, donc la nature humaine, il y a la nature humaine, est-ce qu'elle est, malheureusement, il faudra faire avec. Ça, le sujet aussi important quand même, c'est très, très subjectif. Je crois qu'on doit réapprendre à être solidaire avec nos anciens,
parce que ça, pour moi c'est très choquant.
C'est
parce
ça. C'est
ça. Très choquant c'est ça. Que arrivé à un certain âge, on ne veut plus de nos anciens et on les dégage automatiquement dans des maisons spécialisées. Ça, c'est pas normal. Il faut qu'on réapprenne. Il faut qu'être solidaire avec nos anciens. Ils ont travaillé, ils ont été exploités.
Mais je pense qu'il faut des lois pour ça carrément. Il faut des lois pour ça carrément.
Je dirais que il faut effectivement. Là où je te rejoins.
On donne des coups de pied aux vieux là-bas, dans les EHPAD.
Là où je te rejoins.
C'est rien encore les coups de pied.
Juste un truc sur les conditions de travail du personnel EHPAD.
On appuie sur les blessures volontairement.
Je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un article dernièrement, je sais plus c'était quel média, qui disait que dans un EHPAD, il y a une dame qui s'occupait, elle était toute seule pour s'occuper de 120 patients.
Journal de
oui.
Toute seule pour s'occuper de 120 patients. Et les conditions de travail sont exécrables, le salaire est exécrable.
Les formations sont pas toujours là. Les formations sont pas toujours là. C'est pour ça que je joins cette problématique à celle des policiers, parce que on a besoin de formation en plus. On a besoin de mieux les gérer, parce que bon, c'est bien beau d'avoir même beaucoup de soignants. Il y a des hôpitaux ou des EHPAD qui manquent pas de soignants, mais qui sont pas formés. Comment est-ce qu'on veut s'occuper de ces personnes-là qui quelquefois ont des handicaps? Voilà, beaucoup ont des handicaps, et quand on sait pas gérer, qu'on connaît pas les soucis de chacun, comment est-ce qu'on gère? Eh ben, c'est de la maltraitance. C'est une forme de maltraitance.
Ahmed Triet?
Oui, écoutez, ce qui se passe dans les EHPAD, moi, je ne vais pas généraliser.
Quelle solution pour
je ne sais pas aujourd'hui si ça se passe partout dans les EHPAD.
Non, fort heureusement.
Je ne connais pas le dossier pour vous dire ça. Il y a une enquête, en tout cas, qui est en train d'être menée. Donc, on peut féliciter aujourd'hui cette enquête-là. Je pense que le gouvernement
Mais quelle solution? Quelle
Attendez,
solution pour
le,
mettre
le
fin
gouvernement,
à la maltraitance? Est-ce qu'il faut une loi, comme dit Médicis?
Le gouvernement aujourd'hui va s'y attaquer pour prendre à bras le corps cette problématique-là, mais je pense qu'il y a plusieurs problématiques. D'abord, ce sont les conditions de travail. Comme il l'a rappelé Jimmy, les conditions de travail sont très importantes aujourd'hui. On en a fait du quoi qu'il en coûte sur la question du Covid. Pourquoi aujourd'hui ne pas restructurer tous les hôpitaux, tous les EHPAD, mettre plus de budget sur cette question-là? La question de la formation du personnel aujourd'hui, voire aussi peut-être que des gens ont des troubles psychologiques, hein, sur la question du personnel. Donc, il va falloir aussi faire une sélection de candidatures. Peut-être avec une formation, ajouter des troncs communs, etc. Donc ce sont des leviers qu'il faudra mettre en place, une multitude de solutions et non pas une solution, contrairement à ce que l'on dit et de façon simple.
Exact.
Et donc aujourd'hui, je crois que les gouvernements et une responsabilité, les gouvernements successifs depuis Nicolas Sarkozy jusqu'au ce gouvernement-là Macron, c'est les restrictions budgétaires aujourd'hui. Mmh. Ces restrictions budgétaires aujourd'hui posent effectivement un vrai problème, mais au-delà des EHPAD, c'est sur la question de notre service public et nos biens communs.
Et là où je vais faire le marxiste pour rejoindre, en vérité, Emmanuel Macron, sur ces questions-là, a clairement privilégié les entreprises et du coup les riches.
Attendez,
laissez-moi faire mon marxiste pour une fois, que mon marxiste...
Orphéa, qui s'occupe justement des maisons de retraite, des retraités, bénéfice net qui a augmenté de 40% en 2021 en pleine pandémie, et 40%, ça a été reversé aux actionnaires, sous forme de dividendes aux actionnaires. Et pendant ce temps-là, ils nous font un speech sur les maisons de retraite.
Mais on sait que les grandes richesses ont augmenté, c'est pas une nouvelle.
Dit, hein. On ne peut pas faire de super profit sans casser de l'homme, en fait.
Et ben, merci,
ça, les bases du capital.
Merci, messieurs. Merci à Ahmed Triet.
Je vous remercie.
Merci à Mehdi Jazeri.
Merci à vous.
Merci à Jimmy Dalidou.
C'est des...
Merci à la réalisation, à Yanis.
Et vive les bolcheviks.
C'est Bilal qui prend le contrôle de 20h à 21h, justement, ici même, durant une heure, dans Time Sport. Merci à vous, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous, à lundi avec autant de plaisir, on ne lâche rien les amis. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.